Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Quoi de plus merveilleux qu'une amitié indéfectible, celle qui lie quatre amis depuis leur enfance, quatre femmes de caractère si dissemblables qu'on se demande bien ce qui peut les unir. C'est ce que vont devoir découvrir Abel Hamelin, commandant de la police judiciaire, et son équipe, et ceci en une semaine. Un roman policier, oui, car un crime a eu lieu, mais aussi un roman qui se penche avec une extrême acuité sur les caractères des personnages, leurs blessures, leurs passions, leurs souvenirs, ce qui les anime. Du suspense, de l'humour, un rythme très vif qui rend cet ouvrage extrêmement prenant. Il s'agit de la Confrérie des Louves, éditée par les éditions du Caïman, et j'ai le plaisir de recevoir son auteur, Florence Rhode. Florence Rhode, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Remarquable départ pour un premier roman aussi réussi. Je dois vous avouer que j'ai découvert ça ce matin. Premier roman, bravo.
Merci.
Bravo. Alors, tout commence par un assassinat, celui d'un grand restaurateur, et se poursuit par une enquête effrénée. On saura le vendredi qu'Abel a moins de 24 heures pour identifier l'assassin du meurtre du Schaeffer, celui qui est mort. Et passé ce délai, il sera dessaisi du dossier. Donc, il ne doit pas perdre de temps. Pourquoi ?
Alors, pourquoi il a seulement une semaine.
Hein, oui,
pas
c'est
24
ça.
Heures, tout oui. À fait. Parce que... C'est une enquête, en fait, comme on le découvre assez rapidement, qui prend rapidement une dimension politique. L'une de ses suspectes se trouve être directrice de cabinet du ministre du budget.
On parlera de Maude, oui.
Voilà, tout à fait, Maude. Et du coup, le commissaire divisionnaire n'a pas envie que ça traîne. Il veut des résultats tout de suite. Et bien que ce ne soit pas un crime particulièrement horrible, ou, oui. Voilà, il lui dit, ben voilà, tu as une semaine pour
résoudre
l'enquête.
Oui, sinon ça risque de faire tache d'huile.
Voilà, il ne veut surtout pas que la presse s'en mêle, et voilà, il
bien
veut
sûr.
Des résultats rapides.
Alors, sept chapitres correspondant chacun à un jour d'une semaine, une semaine sous tension. Jour que vous ponctuez d'heures qui s'écoulent inexorablement. Alors, il y a justement une impression de tension. Rien que ces notations de date, on se dit, oui, effectivement, il y a un timing très serré. Bon, et on est très attentif à ça, parce qu'on voit parfois que c'est 2h du matin... Hein, une heure d'après-midi. On voit, vous nous faites découvrir aussi le travail des enquêteurs, et on voit quand même que souvent ils se contentent d'un sandwich manger debout, appuyé contre le radiateur. Voilà. Alors, souvent dans les romans policiers, les enquêteurs n'ont pas de vie personnelle. Ici, oui. Et ça, c'est très intéressant aussi.
Oui, tout à fait. En fait, ils ont une vie personnelle. C'était justement important pour moi qu'ils en aient, parce que pour mon héros, Abel Hamelin, que vous mentionniez...
Qui est le commandant
de la brigade criminelle qui doit résoudre le meurtre, il a un côté vraiment très sombre, hein, qu'on explique ultérieurement au cours du roman. Et c'est un personnage qui est en permanence... attiré vers ses côtés sombres, et finalement sa vie de couple, c'est la seule chose qui le maintient, qui l'équilibre, qui le tire du côté justement plus
et son
plus clair.
Métier aussi quand même
et son métier
oui.
son métier est quand même lié à son drame personnel, puisqu'à un moment il explique que c'est parce que il recherche
il recherche celui dont il croit qu'il est l'auteur de la mort de ses parents, d'un accident de voiture.
Voilà, tout à fait.
Alors, cet Abel Hamelin est intéressant quand même, parce qu'en dehors de ça, et ça petit à petit, on a d'ailleurs l'impression que c'est presque une histoire dans l'histoire. C'est vrai qu'il y a quelque chose là d'autre. C'est un chef quand même, une forte personnalité, il est intelligent, intuitif même, trop secret, donc, on le sait, mais les autres ne savent pas, à part un de ses collègues, à qui il se confie.
Oui, complètement par hasard, en fait, parce que au début de l'enquête, donc, il est saisi de cette enquête, il se rend sur place, Il commence ses investigations, il retourne à la brigade, et là, par un hasard assez exceptionnel, le détective privé qui l'a chargé d'enquêter sur cet accident et de retrouver le chauffard qu'il tient responsable pour la mort de sa famille. Le détective privé l'appelle en lui disant bah, ça y est, je l'ai retrouvé. Oui. Et donc, ce chauffard qu'il a passé toute sa vie d'adulte, finalement, à traquer.
C'est presque la baleine blanche. Hein.
C'est un petit peu ça. Et d'un coup, il se dit, parce que bon, bien évidemment, il a des projets de vengeance à son sujet, et il se dit, bah, c'est comme si finalement j'étais un agent dormant du KGB qui n'a rien à faire pendant des années, et puis d'un coup, il reçoit un coup de fil, et à qui on annonce, bah, tiens, tu as une mission. Et d'un coup, c'est tout son univers qui s'écroule, parce que il y a une différence entre...
Comme si c'était fait une promesse, il avait fait une promesse à sa famille.
Tout à fait, mais il a fait une promesse à sa famille. Il a été très marqué par l'accident, et notamment par la mort de ses parents, bien sûr, mais également de sa jeune sœur, qui, dans l'accident, m'aimait longtemps à mourir. Bon. Et il s'est juré qu'il ferait tout pour les venger, et il est même devenu flic pour ça.
Alors ça, je me suis dit, c'est un côté obsessionnel qui, quand même, pourrait faire douter de ses qualités d'inspecteur. Mais bon, non, en fait, il travaille énormément. Alors, vous décrivez bien l'équipe, le comportement, leurs relations, leur travail, les tensions, vous avez enquêté vous-même pour voir comment ça fonctionnait dans une équipe d'inspecteurs de police?
Non, c'est mon...
Non, c'est votre imagination?
C'est complètement mon imagination. J'aurais bien voulu, mais bon, comme vous le disiez en début d'émission, c'est mon premier roman. Et donc, je n'ai pas eu forcément accès à ça. Je me suis beaucoup documentée, mais d'une façon assez externe quand même. Mais c'est comme ça que j'imaginais, en tout cas, la vie de cette brigade.
Alors, on va pouvoir parler, effectivement, on va parler de l'inspecteur Hamelin et de son équipe. Et puis, il y a ce groupe-là, et puis il y a un clan aussi soudé, sinon davantage, ce dont j'ai parlé dans l'introduction. 4 femmes, 40 ans, milieu aisé, des couples qui se fréquentent, des femmes très soudées. Et peu à peu, alors ce qu'il y a d'extraordinaire, je trouve, dans votre roman, c'est que peu à peu, on découvre, tout paraît baigné dans l'huile, vraiment ça paraît même idyllique, enfin, les gens s'entendent, les maris s'entendent, ils se reçoivent, ils fêtent les réveillons ensemble, etc. Et puis, peu à peu, on découvre les vies secrètes, les événements douloureux des personnages. Une énigme cache une autre. Il y a une construction extraordinaire. Est-ce que vous faites... Alors là, question vraiment de curiosité. Vous faites un plan, vous faites des fiches. Comment avez-vous procédé?
Alors, oui, justement, votre question est intéressante parce que j'écoutais cette semaine l'émission que vous aviez consacrée à cet auteur là dont le nom est difficile, peu importe, et il vous disait comment il travaillait, et j'écoutais l'émission et je me disais, mais c'est pas du tout comme ça que je bosse, en fait.
Non, chacun a sa technique.
Tout à fait, chacun a sa technique. C'était d'ailleurs sa conclusion. Il disait, moi, c'est comme ça que je fais, mais sans doute d'autres font différemment. Non, moi, en fait, les romans qui ne font pas l'objet d'un plan, je ne suis pas capable de les finir. Donc, comment ça se passe? J'ai une idée de roman. Là-dessus, j'ai plein d'idées qui me viennent, que je note sur des post-it, sur des tickets de métro, sur un peu tout ce qui me tombe sous la main, de façon électronique, quand j'ai mon téléphone à portée de main. J'ai plein d'idées pendant plusieurs semaines. Et puis, au bout d'un moment, ça se tarit. Et là, je reprends tous mes petits papiers.
D'accord.
Et je fais un plan. Et un plan vraiment extrêmement détaillé. C'est-à-dire, vraiment, chapitre par chapitre, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Et après seulement que j'ai fait ce plan, qui est un peu la phase administrative, je me laisse aller au plaisir de l'écriture. Mais pour détailler que soit ce plan, Je m'en sens pas forcément prisonnière.
Oui, vous pouvez gamberger.
Je peux complètement diverger. Il y a des personnages qui peuvent disparaître. Il y en a qui peuvent prendre beaucoup d'ampleur. Le personnage de Maud, notamment, a beaucoup plus de consistance que ce qui était prévu au début. Je peux même aller jusqu'à changer le dénouement.
D'accord. Voilà. Ah oui, donc, et là c'est le cas dans celui-ci, puisque c'est le premier, vous avez changé le dénouement.
J'ai changé le dénouement.
On ne vous demandera pas lequel, parce qu'on ne parlera pas du dénouement. Ça c'est intéressant, parce que en fait votre roman n'est pas du tout linéaire, parce qu'en fait c'est d'ailleurs en italique, il y a des évocations de scènes, de la jeunesse, de l'enfance même de ces jeunes femmes, et qui éclairent petit à petit, mais c'est très subtil, parce que même il y a dans leurs propos, lors de l'enquête, lors des interrogatoires, elles ont des pensées, pas des propos, elles sont très vigilantes, mais des pensées qui disent « Oula, mais c'est pas si clair que cela ». Voilà, c'est pour ça qu'on est intrigué. De prime abord, tout semble très sympathique, oui, très lisse. Et en fait, on découvre chez chacun, y compris chez l'inspecteur Abel Hamelin, des zones d'ombre. Ce qui m'a amusée, et qui est quand même révélateur, c'est que leurs enfants, celles qui ont des enfants, leur ont attribué des nominatifs louves ou sorcières. D'ailleurs, le titre, la confrérie des louves, ce n'est pas fortuit, mais il y en a une fille, je crois, qui les appelle les sorcières. Pas évident pour l'entourage de se trouver face à un club aussi fermé.
Tout à fait. Et ce qu'on découvre au fil du roman, effectivement, au début, on se dit, bon ben voilà, quatre amis qui sont très liés, comme tous, on peut avoir des cercles d'amis.
Bien sûr, bien
voilà.
Sûr.
Et petit à petit, quand on chemine dans le roman, on se rend compte que cette relation, elle a un côté un petit peu malsain, dans le sens où elle passe avant tout le reste. Et du coup, le tout le reste, et en l'occurrence, ça peut être aussi important que la famille, ne prend pas ça forcément. Ça fait beaucoup de dégâts, et notamment, je pense que vous pensiez aux deux filles du personnage qui s'appelle Clémence. Qui les ont surnommées les sorcières, parce que elles ont l'impression que cette amitié leur a volé leur mère.
Oui. Voilà. Alors ce qui est étonnant, c'est que en fait, elles sont toutes les quatre très différentes. Et c'est pour ça qu'on peut s'étonner de ce qui les lie. Et ça, également, ça fait partie de l'intrigue. Et on le découvre que petit à petit, et même tardivement. Évidemment, il y a celle qui est veuve. C'est peut-être celle qui est la plus terne, entre guillemets. Qui avait épousé un homme brillant, on parlera des hommes ensuite, qui est visiblement très amoureuse de son mari. On se demande pourquoi il l'a choisie, elle, parce qu'elle paraît tellement effacée, peut-être parce qu'elle est effacée d'ailleurs, tout simplement. Il y a Clara qui est une séductrice, qui est flamboyante, tout lui est plus facile car elle a beaucoup de charme. Il y a Clémence, Maud. On peut parler de Maud, parce que là, Maud, c'est aussi très intéressant.
Oui, Maud, je vais vous en faire la confidence. Maud, c'est mon personnage préféré. C'est ma louve, en tout cas, préférée.
Le mien aussi, je ne vous le cache pas.
C'est une fille qui est très, très intelligente.
Brillante.
Très, très, très brillante. Et qui finalement, alors je dirais pas que c'est le ciment du groupe, mais c'est celle qui les rattrape.
Oui, qui a les pieds sur terre.
Qui a les pieds sur terre.
Qui est efficace.
Qui perd jamais les pédales. Et qui, à un moment, elle se trouve dans une situation assez, assez dramatique, prend les choses en main et s'arrange pour tirer son espèce de petit clan, de petite confrérie. Vers le côté soft.
Oui, elle a beaucoup de sang-froid. Et par exemple, elle dit à Belle Hamelin, « C'est la quatrième fois en quatre jours que j'ai le plaisir de votre compagnie. Ce matin, vous êtes même venu en personne sur mon lieu de travail requérir ma présence. J'aimerais connaître les raisons de cet un tel engouement. » Je dois dire que votre livre n'est pas dénué d'humour aussi. Hein. Mais là, quel sang-froid également, quel sang-froid. Et puis, on comprend aussi que la venue de deux policiers venus la chercher là où elle travaille, c'est-à-dire Place Beauvau.
Oui.
Elle est, je l'ai noté, elle est directrice de cabinet
oui.
du ministre des Finances.
Oui, oui. Alors, elle est à Bercy, hein. Elle est pas.
Elle est à Bercy.
Oui. Elle est à Beauvau.
Oui, oui. Elle est à Bercy. Bah oui, ils sont maintenant ouais. à Bercy. Voilà. Donc il y a Maude. Et puis pour terminer, alors celle dont la vie est ponctuée de drames.
Clémence. Ouais. Oui, effectivement, c'est pas simple pour elle parce que. Elle avait son père était un homme très violent.
Bon, alcoolique de surcroît.
Alcoolique de surcroît. Donc elle a beaucoup souffert de ça. Quand finalement elle commence sa vie de femme, bon, elle tombe amoureuse d'un homme qui trouve une fin tragique dans un parapente. Et elle met finalement tous ces drames dans sa peinture. Et elle a une peinture qui est
sinistre,
qui est très particulière ouais. et qui associe le monde de l'enfance à l'ultra-violence.
Qui la délivre peut-être.
Qui est pour elle un exutoire sans doute, ouais. mais qui est effectivement, je pense, difficile à soutenir.
Oui, oui, oui. Et c'est très intéressant parce que bon, là, on voit tous les problèmes qui émaillent leur vie d'adulte, bon, veuvage, problème de couple, enfant difficile, stérilité de l'une. Pour Clémence, on voit aussi que cette absence d'amour qui est notoire, quand elle était enfant, se répercute sur ses propres enfants. Elle a du mal.
Oui, 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 elle a du mal, mais au départ, elle ne voulait pas d'enfant. C'est son compagnon qui a insisté parce que lui avait une famille nombreuse. Il voulait absolument avoir des enfants. Et alors elle cède et on n'en aura qu'un. Et par un hasard du destin, elle a des jumelles.
Elle a des jumelles et lui a un accident voilà, et disparaît.
Et donc à un moment, elle dit mais moi j'avais fait cet enfant qui se révèle être des enfants pour lui faire plaisir. J'étais parent suppléant et ça m'allait très bien. Mmh. Et d'un coup, je me retrouve en front et je dois gérer.
Et ça se détériore. Bon, voilà. Alors, il y a l'événement majeur, évidemment. Et d'ailleurs, votre roman commence comme ça, par l'assassinat du plus complexe, brillant, charismatique des maris et peut-être le plus pervers.
Le plus pervers, oui, ça certainement.
Ouais.
Mais je vous disais tout à l'heure que on fait un plan, mais les personnages évoluent. Alors il est très manipulateur, il est très antipathique, Edouard. Mais
et pas pour tout le monde, justement.
Mais voilà. Malgré tout, à un moment, il s'est un peu affranchi de ma plume. Je ne sais pas si les personnages de roman font ça. Les miens, oui, en tout cas. Il s'est affranchi de ma plume. Et voilà, il a des côtés sympathiques.
Ouais. Bon, mais est-ce que vous croyez quand même que les gens sont soit horriblement...
Non, bien sûr, voilà. Oui, tout à fait. Donc,
je crois que personne n'est tout à fait...
Ni blanc, ni noir.
Oui. Oui, et donc, je dirais que c'est intéressant de voir qu'à un moment donné... On dit, quelque part, je ne sais pas, c'est son épouse qui dit qu'elle avait épousé un kaléidoscope. C'est un séducteur, donc. Il est ange et diable. Et en même temps, c'est vrai qu'il a des côtés sympathiques, parce qu'à un moment donné, il aide, et vraiment, hein, dans un premier temps. Alors, on ne sait pas. Je ne sais pas si je me souviens plus si on sait pourquoi il va autant aider le fils de l'une de ses amies. Mais toujours est-il qu'il le fait d'une manière très généreuse, en définitive. Mais peu de temps après, il réclame. Oui, voilà. Et puis, alors moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Georges Herrmann.
Ah oui.
Bon, oui, je l'aime beaucoup. Alors Ludovic, bon, lui, c'est le mari de Clara, cette belle femme, lui ne peut plus endurer de passer toujours en dernier. Bon, il se sent, il y a une jalousie compréhensible, il se sent humilié, sympa. C'est le prince consort.
Oui. En fait, qu'on sort, oui. Ou qu'on ne sort pas d'ailleurs.
Ou qu'on ne sort pas, c'est peut-être le mari de la reine Elisabeth qui a peut-être ce problème là. Mais en tout cas, lui fait des reproches, pas au mauvais moment d'ailleurs, il est un peu maladroit. Mais Georges Herrmann, alors lui, c'est un cérébral, je dirais un intellectuel. Il a des plaisirs simples et je lis, il ne répondait pas à la définition d'un épicurien, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'appréciait pas particulièrement la bonne cuisine. Se satisfaisait très bien d'un break familial alors que ses moyens lui auraient permis de conduire une Ferrari et n'était pas très porté sur le plaisir charnel. Mais s'il y avait bien une chose à laquelle il était incapable de résister, c'était une bonne joute verbale. Ce n'était pas une attirance physique qui l'avait incité à reprendre contact avec Maud à Paris, plutôt l'intuition qu'avec cette femme-là, il ne s'ennuierait pas une seconde et que la vie avec elle passerait aussi vite que ce que lui avait paru durer le vol. C'était en avion qu'ils s'étaient rencontrés.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et en effet, hein, je crois que là, c'est une promesse tenue. En revanche, le couple, on peut parler du couple d'Abel et d'Élise, puisque Élise est la compagne de l'inspecteur, et lui est très taiseux. Et c'est un couple qui pourrait, dans un premier temps, on a l'impression qu'il tient beaucoup à son épouse. En même temps, on voit qu'il lui cache des choses et on ne comprend pas trop pourquoi. Bon, il y a des gens comme ça, mutiques. Il est assez mystérieux et elle le ressent et c'est ce qui va dégrader leur relation. Donc, en fait, vous avez voulu montrer que les apparences sont trompeuses.
Oui, bah, c'est ce que je pense. Je pense que les apparences ne sont jamais ce qu'elles paraissent être.
Et qu'il faut aller au-delà.
Il faut aller au-delà. Alors après, elles ne sont peut-être pas si différentes qu'elles le sont dans le roman. Mais,
oui, heureusement.
Oui, souvent la surface par rapport à...
Oui, mais enfin, quand on entend parler de crimes célèbres, écoutez quelqu'un nous dire, ben non, il était très bien, très gentil, vous voyez. Il y a ça aussi.
Oui.
Hein.
Tout à fait. Il n'y a qu'à voir quand il y a... quelqu'un qui est arrêté, les voisins disent oh, mais alors, jamais on n'aurait pu se douter si
exactement.
On nous avait dit mais
exactement. Bon, alors écoutez, nous allons faire une première pause musicale et nous reprenons ensuite.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, je crois que nous venons d'écouter la musique d'un film célèbre, Ascenseur pour l'échafaud, Christophe Aupin-Duchef, c'est ça ? Oui, merci. Voilà, donc oui, un film policier remarquable. Nous retrouvons Florence Roche pour la Confrérie des Louves, qui est un roman policier. Et ce que l'on voit actuellement, c'est que les romans policiers ont énormément évolué. Ce sont des romans.
Oui.
Alors, il y a une intrigue policière, mais ce sont quand même des romans à part entière.
Oui, tout à fait. Il y a une évolution qui est très nette. Hein. Vous savez, le roman policier, c'est un genre qui est très complexé, en fait, parce qu'il a longtemps été considéré
comme roman de gare,
de oui. La sous-littérature, de la littérature facile. Et il en a beaucoup souffert, mais c'est vraiment en train de changer. Je trouve que c'est une très bonne chose. Selon moi, c'est parce qu'il y a de plus en plus de bonnes plumes qui la mettent au service du genre. Je pense,
oui.
Par exemple, à Pierre Lemaître.
Pierre Lemaître, bien
qui
sûr.
Du roman policier.
Oui, qui est venu à votre place.
pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'admiration.
Oui.
Et d'ailleurs, quand il a eu le Goncourt pour Au revoir là-haut. Lui a dit, d'une certaine façon, c'est un hommage qui est rendu au roman policier, parce que même si le roman primé ne l'était pas, moi j'en viens et voilà.
Tout à fait. Alors, avant cette pause musicale, nous parlions de ces apparences trompeuses et on peut sourire à certains moments parce que l'inspecteur Abel Hamelin. Paraît être un expert, il est assez sûr de lui, il est très intelligent, visiblement. Mais il est mis en échec par ces quatre femmes.
Oui, alors...
quand même.
Il trouve quand même... il résout quand même l'énigme. Hein,
et... Oui, ah non, mais... oui, mais quand même, il a du mal.
Il a du mal.
Elles sont intelligentes et elles ont appris à dissimuler. Elles se sont préparées à dissimuler. Et c'est souvent drôle, parce qu'il a le sentiment d'être manipulé.
Oui, et il n'aime pas ça.
Et il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Alors, on voit aussi dans votre roman... mais peut-être l'ai-je dit en début d'émission, il y a deux époques, c'est-à-dire le moment de ce crime, l'enquête, qui va nous amener d'ailleurs dans plusieurs endroits, et deux époques, puisqu'il y a également le passé avec des scènes qui ponctuent ce roman et qui expliquent petit à petit comment ce lien si fort s'est construit.
Oui, tout à fait. C'est comme vous dites, il y a le déroulement du temps qui passe, l'enquête, donc les 7 jours ponctués de l'heure à laquelle intervient la scène, mais les Louves ont des flashbacks, et donc régulièrement, elles se souviennent d'un épisode du passé qui est clair, qui donne un éclairage d'ailleurs, qui peut être différent hein, en fonction de du personnage. Et voilà, et c'est comme ça qu'est construit le roman.
Oui, parce que vous avez bien sûr aussi la différence de caractère, de comportement, même de parler.
Oui.
La manière dont elle parle, c'est très différent, et même de s'habiller.
Oui.
Vous décrivez les habits aussi.
Oui, je décris les habits. Alors pour ce qui est de la manière de parler, je trouve que c'est important. Tous, nous avons des manières de nous exprimer différentes. Et voilà, et je fais très attention à la façon dont s'expriment mes personnages.
D'ailleurs, l'artiste peintre a un langage plutôt vert.
Oh oui, carrément relâché. Hein,
oui, carrément.
Il y a les insultes chaque fois qu'elle fait l'objet d'un interrogatoire.
Très agressive, oui, voilà. Je parlais de lieux différents, évidemment. Il y a le grand restaurant dans lequel a eu lieu l'assassinat, et on commence par cette scène. Il y a l'appartement de la nouvelle veuve qui réunit, on voit que régulièrement ça réunit les couples, et puis là ça réunit les amis. Il y a également, évidemment, les locaux de la police judiciaire qui se trouvent à... Maintenant, ils ont déménagé.
Oui, ils ont déménagé au Batignolles.
Depuis, eh oui, c'est quand même, voilà. C'est un peu dommage. Hein,
c'est un peu dommage, et je peux vous dire que ça plaît pas beaucoup au commandant Hamelin. Hein,
voilà, oui, mais je crois qu'ils sont tous dans ce cas. Il y avait une histoire, c'était un mythe. Et puis il y a un chalet en montagne, et là j'avoue que j'ai beaucoup ri, parce qu'à un moment donné, donc, le commandant Hamelin envoie une de ses... inspectrice en montagne, carrément en Haute-Savoie, je crois, et il va falloir qu'elle fasse une marche longue dans le froid, et elle est coriace, parce que c'est une, j'ai l'impression que c'est une dure à cuire.
Ah oui, c'est une dure à cuire, oui.
Voilà. Souvent, j'ai parlé d'humour, il y a des notations comme ça, par exemple le cabinet ministériel, de l'humour. Par exemple, de l'humour qui lui fait grincer les dents, il avait déjà noté que l'intelligence chez une femme est souvent suspecte, par exemple. Voilà. Alors, quant à l'enquête, Hamelin, donc, est assez désappointé. Il dit « Elles m'ont toutes menti ». S'agissant de Clara Montivali, Clémence Lerouge et Denis Schaeffer, j'en connais les raisons. Pour ce qui est de Maud Herman, je ne comprends toujours pas pourquoi ça me chiffonne. Parce qu'il se trouve lui-même en but, il doit rendre des comptes. Il doit rendre des comptes, on le presse de terminer cette enquête. Et on va parler d'ailleurs, à un moment donné, il y a un coup de théâtre. Il y a une d'entre elles va s'accuser, puis un second coup de théâtre. Enfin. Alors, il pose des questions apparemment anodines. Le temps passé en cuisine chez Denise. C'est déstabilisant et en même temps c'est important.
Oui, rien n'est laissé au hasard.
Non.
En fait, il n'y a pas de questions innocentes dans son.
On voit qu'il est fort quand même. Hein. Bah oui, mais il est à la PJ de Paris.
Oui, oui, oui. il est assez fort et ses collègues le surnomment. Il a beaucoup de surnoms. Hein,
le prof.
Le prof, parce qu'il a, la détestable manie de corriger la syntaxe de tout le monde. Ce qui est un peu une de mes manies d'ailleurs. Donc les gens m'ont dit, ah bah oui, tiens, ça, on sait d'où ça vient.
Mais il est capable aussi de revirement. Comment a-t-il pu juger cette femme dépourvue de personnalité, dit-il en parlant de Denise.
Oui, parce qu'au début, elle lui paraît complètement terne.
Oui.
Et en fait, cette passion qu'elle avait pour son mari, à un moment, il se dit, mais ça l'a grandi finalement, ça l'anoblit. Voilà. Alors après, est-ce que au nom de cette passion, elle est allée trop loin? Ça, c'est la question qu'il doit résoudre. Hein, mais
exactement. Oui. Alors, il devine. Il y a quelque chose, un événement qui les lie, il le devine très vite, mais il ne sait pas quoi. Et ça l'obsède. Il se pose des questions sur un prêt très généreux au fils de Clara. Et il est très précis là-dessus. Le document stipule qu'au-delà d'une période de 3 ans, le prêt devenait exigible n'importe quand dans un délai de 6 jours. Pour le coup, c'est un peu drastique, vous ne trouvez pas? Alors voilà, il s'adresse donc à Clara. Mm-hmm. Et Clara, vous allez peut-être nous lire un passage de son interrogatoire.
Oui. Elle décline ses noms, prénoms, âge et qualité. Clara Montivali, 41 ans, directrice de clientèle chez Publicis. Elle fait de son mieux pour ne pas croiser les regards des cadavres sur les photos en noir et blanc qui, du mur, la chargent des yeux. Pas facile. Toujours renversé dans son fauteuil, Hamelin la toise. Il ne s'en est pas rendu compte la veille qu'elle était aussi attirante. Le genre de femme habituée à la déférence masculine. Elle devra s'en passer aujourd'hui. Encore que c'est le sourire aux lèvres que Delattra, les mains sur le clavier, est prêt à prendre sa déposition. Hamelin lui écrase la converse sous le bureau. Libre à lui d'être sensible au charme féminin, mais il ne doit pas en faire trop étalage. Abel note qu'elle a troqué sa parka contre une redingote blanche aux manches fourrées. Sans croire aux coïncidences, il peut admettre une part de hasard. Sauf à ce que l'information est fuitée, elle ne sait pas pour quelle raison elle vient déposer. Toutes les quatre l'ignorent. Et celle-ci est du genre à disposer d'au moins d'un manteau par jour de la semaine. Lorsqu'il observe son traditionnel silence d'avant-interrogatoire, Clara le regarde droit dans les yeux, le sourire aux lèvres. Enfin, il ouvre le feu. Vous le connaissiez bien, Édouard Schaeffer ? Assez, oui. Intonation circonspecte, fin de phrase presque interrogative, du genre « Est-ce qu'on sait jamais si on connaît bien les gens ?» Préciser. Penché sur son bloc, le porte-mine à la main, Hamelin incarne un gratte-papier scrupuleux et tatillon qui ne la laissera pas s'en tenir aux généralités. C'était le mari d'une de mes meilleures amies. On se recevait à dîner, on partait parfois en vacances ensemble, de là à le connaître. Quand vous dites « parfois », c'était à quelle fréquence ? Hamelin donne le ton d'entrée de jeu. Elle doit la trouver frustrante, cette sensation de ne pas avoir la main, de ne pas se trouver du bon côté du bureau. Elle n'en montre rien. Ses yeux de biche papillonnent avant de se poser sur de l'attrap. Elle croise les jambes. Le froissement discret de la soie affole le savoyard. Hamelin n'a pas besoin de le regarder pour le savoir. Au début des années 2000, les Schaeffer ont acheté une maison dans le Luberon, près de Pertuis. On y est allé chaque été depuis. Soit au moins une quinzaine de fois. Ça fait beaucoup pour un parfois, objecte Hamelin. Alors disons souvent, propose-t-elle avec un petit sourire au gloss qui tire sur la moue enfantine. Je préfère. Les dernières vacances, c'était quand ? L'été dernier. Elle énumère à sa demande la liste des 9 personnes présentes. Les Schaeffer, les Hermann, Clémence et les jumelles, elle-même et son mari Ludovic. Ils y ont séjourné la deuxième quinzaine d'août. Denise Schaeffer, vous la fréquentez depuis longtemps ? C'est une amie d'enfance. Je l'ai connue en 6e. En même temps que Clémence et Maud, on est très vite devenus inséparables. Ok, reprend Hamelin. Donc, Édouard Schaeffer, vous ne le connaissiez pas plus que ça. Vous êtes plutôt lié avec son épouse. C'est exactement ça. L'enthousiasme du ton suggère qu'elle crédite Hamelin d'un QI supérieur à celui d'Einstein. Intéressant. Vous avez déjà couché avec Édouard Schaeffer ? Pour le coup, l'indignation empourpre les joues de Clara. Intérieurement, elle est soulagée. S'ils en sont là, c'est qu'ils pataugent. Elle a encore un peu de temps devant elle. Vous écoutez ce que je vous dis ? C'était le mari d'une amie. Vous couchez avec les amis de votre femme, vous ? Alors d'une part, ça ne vous regarde pas. Ensuite, vous n'avez pas répondu à la question. Alors, si vous ne voulez pas que cet entretien prenne la journée, va falloir laisser tomber vos numéros de petite fille perdue, de femme fatale, et tant qu'on y est, de vierge offensée, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Clara encaisse d'un haussement de sourcils fataliste. Quand elle reprend, sa voix est d'un octave moins haut perché. Non, je n'ai pas jamais couché avec Édouard. Il n'aurait rien eu contre, cela dit. Racontez-nous ça. Sur le trajet qui l'a conduite ce matin au Quai des Orfèvres, Clara a arrêté une stratégie. Faute de concertation avec les autres, rester la plus vague possible. Et ne communiquer aucune information personnelle. L'entrevue n'a commencé que depuis 10 minutes, ce qu'elle a déjà enfreint ses deux règles. Elle n'a pas le contrôle et ne peut rien y changer. Mais elle doit se surveiller davantage.
Abel Hamelin est un personnage très intéressant, parce qu'il manie tous les gens lui aussi. C'est vrai qu'à un moment donné, il est tatillon, il se moque. Parfois, il est assez... il a un langage rude. Il s'adresse à... Alors, je cherche ma page, voilà. Il a un langage même musclé. « Dis donc, Calimero, personne ne t'a demandé de venir. Deux options. » Ou je repars avec l'objet et je vois ce que je peux faire. Il s'agit du taser ou du choker. Ou alors, toi et ta famille, je vous mets au trou et vous n'en sortez qu'avec un aller simple pour d'où vous venez. Et si tu avais la tentation de revenir en France, je te conseille d'y penser à deux fois. Parce que si jamais moi ou un de mes collègues on te recroisait, ce ne serait pas simple pour tes phalanges. Tu as 10 secondes pour me donner ta réponse. Alors, sur le moment, on se dit, il est quand même un peu gonflé. Mais non, il est aussi humain. Il s'adresse à un de ses jeunes collègues, il dit « Tu recrutes le sieur Popescu, il s'agit de celui à qui s'adresser, et 3 de ses frères. Au terme de la demi-journée, tu leur remettras 50 euros à chacun, il s'agit d'un déménagement. Oui. » Il sortit de son portefeuille 2 billets de 100 euros et l'étendit au lieutenant.
Oui, c'est quelqu'un qui à la fois a conscience qu'il doit obtenir des résultats, puis il est assez cash, hein, Hamelin. Au début, il y a des collègues qui disent ouais, est-ce qu'il n'est pas un peu raciste ? Mais il dit non. Moi, je considère que tout le monde est aussi con, toutes les races, tous les sexes. Il n'y a personne qui soit, qui soit mieux servi. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est humain et c'est quelqu'un qui a un respect très grand de la parole donnée. Ouais. Donc là, le jeune migrant dont on parle lui dit, parce qu'à un moment se retrouve avec un objet qui serait utile à l'enquête, mmh. il essaye de faire un peu marchander ça, et donc il dit à Hamelin, mais moi je suis venu pour chercher du travail. C'est là où Hamelin lui répond, bon, personne t'a demandé de venir. Mais à la fin, quand il a obtenu ce qu'il veut, il s'arrange pour lui confier effectivement un travail.
Oui, oui. Alors, nous allons faire une autre pause musicale. Et évidemment, nous sommes toujours dans le film policier. Mm-hmm. On est dans l'ambiance.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Oui, évidemment, les amateurs de jazz ont reconnu Miles Davis qui joue dans cet extrait tiré d'un film, Touchez pas au Grisby, qui a été également un grand succès du cinéma français. Voilà, nous retrouvons Florence Rode et la confrérie des Louvres, ces quatre femmes qui sont pittoresques, qui s'entendent bien, qui ont des secrets qui sont tenus, mais de temps en temps, bon, il y a des explications. Je dois dire que l'explication pendant les obsèques, ça ne manque pas de sel. Voilà. Et on peut penser à un moment donné, à la page 200, on est déjà loin, que l'énigme est résolue. Parce qu'un coup de théâtre, quelqu'un s'accuse, Clémence. Bon, grande satisfaction au plus haut sommet de l'État. Mais deuxième coup de théâtre, elle se rétracte de toute façon, Abel Hamelin ne l'a jamais cru.
Oui. Abel Hamelin ne croit pas du tout en sa culpabilité. Et entre-temps, il est allé dégoter en plus la preuve qu'elle n'avait pas pu commettre le meurtre. Et voilà. Et comme vous le disiez, c'est quelqu'un qui marche à l'intuition.
Oui. Et qui est honnête. En plus, intellectuellement honnête. Alors, le divisionnaire, le chef, et le juge sont mécontents. Abel s'entête. Clémence Lerouge n'a pas pu tuer Édouard Schaeffer. On lui dit, c'est vous qui le dites. Les caméras de surveillance de la RATP sont de mon avis. Et il sortait un boîtier de la poche. Et là, il est fait taire. Autre échec, ben, on découvre. Et là, peut-être que je ne vais pas le dire. Au sujet du taser, du shocker, on va découvrir quelque chose qui également fait avancer l'enquête. Et en fait, cette enquête, ce sont des points très particuliers. C'est vraiment, moi, je suis admirative de la construction de cet ouvrage. Toutes les pistes, à un moment donné, conduisent à une impasse. Et on sent un moral en berne dans toute l'équipe des inspecteurs.
Oui, il y a un moment, je crois que c'est dans la journée du vendredi, où ils sont face à un mur. Il n'y a, y a plus de. C'est-à-dire, toutes les pistes qu'ils ont
Les
suivies jusqu'à
pistes
présent,
intéressantes,
voilà,
importantes.
voilà sont dans une impasse.
Il leur reste que des peccadilles quand même, non?
Oui, bah, à un moment, il dit que bah, ce n'était plus une enquête, c'était un lot d'hameçons jetés dans une rivière à sec.
Oui,
En
c'est
gros, c'est
ça.
ça.
Oui. Alors, il reste le fils de Clara qui a hérité, à qui Édouard, celui qui est mort, avait prêté une très forte somme, un appel téléphonique féminin dont le prénom se termine en A, l'appel d'un homme à l'accent slave, les fadettes qui n'ont pas été encore décortiquées, les fadettes, ce sont les enregistrements de portables.
Ce sont les factures téléphoniques.
Oui, voilà, plutôt. Le cuistot indien, je crois, qui a peut-être de bonnes raisons de
Oui.
tuer son boss. Les Georgiens, là, c'est les voleurs dans la loi, je savais pas, je sais plus,
Oui,
qu'est-ce que ça
oui.
signifie, ça.
Non, mais c'est une secte, en fait, de Géorgiens, qui, une sorte de clan, mais qui sont spécialisés dans les cambriolages, je crois, et qui sévissent sur la Côte d'Azur.
Oui.
C'est pour ça qu'à un moment, il doit téléphoner
Voilà, Marseille.
voilà, à Marseille.
Voilà. Et là, il y a un nouveau suspense parce que ça va de rebondissement en rebondissement. Et on se pose la question quand même de la fortune de Schaeffer parce que visiblement, il est issu d'un milieu
Très
modeste.
modeste, oui.
Or, il a des sommes, il a prêté une somme d'argent colossale au fils
De
de
Clara,
Clara.
oui, tout à fait.
Alors là, c'est intéressant parce que finalement, on peut le dire, non, ça ne
Oui,
dévoile pas.
non. En fait, il est effectivement issu d'un milieu extrêmement modeste. Son père était conducteur de métro. Mais ce père, en fait, il jouait aux courses. Il pariait sur des chevaux. Et le jour où il gagne une somme très substantielle, au lieu de tout claquer, il ne le dit pas, il change strictement rien à sa vie, et c'est au moment où il décède que en fait, Édouard se rend compte
Se
que...
découvre
Voilà.
qu'il est un riche héritier.
Voilà.
Et alors, ce qui est intéressant et qui apporte encore un éclairage nouveau sur Édouard, c'est que qui vend la mèche, enfin, qui va dire la vérité de cette richesse, c'est le meilleur ami d'Édouard Schaeffer, c'est-à-dire Martial Bertin. Alors lui, qui est un pharmacien,
Les
je crois,
pharmaciens, oui.
qui est malingre. Hein, qui était en
Oui.
butte à la moquerie de ses petits collègues au collège. Il était protégé par Schaeffer au collège. Et ça a créé une amitié indéfectible et étonnante là aussi, et qui explique donc comment le père d'Edouard, qui était conducteur de métro, Turfis, a gagné
Ouais.
rien, 650 000
Oh.
euros, ce qui n'est pas rien.
Voilà. Et c'est intéressant aussi parce que ça montre le fait qu'Édouard ait pris ce petit garçon qui ne lui était rien au début sous sa protection, c'était un peu le souffre-douleur de l'établissement, il le prend sous son aile. Donc Édouard est également quelqu'un qui... Alors il fait des choses assez vachardes hein, dans
Voilà,
le...
on
On
n'en
découvre...
parlera pas, on
Voilà,
n'en parlera pas ici.
tout à fait. Mais il est capable aussi de dire non, mais ça, c'est pas juste et je vais essayer de changer quelque chose.
Ouais. Alors, il y a beaucoup de rythme et il y a par exemple l'alternance des situations. Tout ça est rapide, pas rapide en ce sens que vous décrivez, mais on passe par exemple, il y a les obsèques, le fou rire de Denise.
Oui.
Il y a Martens, l'inspectrice, au pied des pistes de ski. Ça, c'est inattendu. Chez Denise, la réunion, une réunion où il y a une explication, là aussi, assez...
C'est sanglant, oui, enfin.
Oui, chacune donnant son avis, puisque Denise réclame l'opinion de ses amis sur son mari. Elle a deviné quand même que ses amis ne l'aimaient pas.
Oui, bon, après, c'est pas très difficile, hein, mais oui, effectivement.
Oui, mais elle n'est pas au courant, elle. Visiblement, elle n'est pas au
Non, elle n'est
courant.
pas au courant, mais enfin, bon, elle sent bien que ses amis sont sur la réserve. Elle le devine. Elle devine que son mari n'est pas le type le plus populaire du monde.
Oui. Oui. Oui, alors tout ça, on en revient à cette conclusion des effets toxiques de cette amitié qui s'est construite sur quelque chose de violent, en fait.
Oui.
on ne dira pas quoi. Et elles sont, on voit que ces femmes sont devenues tellement codépendantes que ça atténue tout ce qui peut arriver d'autre, car il y a un élément majeur qui s'est produit quand c'était jeune, et c'est l'enfouissement total, et elles se tiennent les coudes, même s'il y a des moments où elles aimeraient prendre le large.
Oui. Alors, elles n'essayent pas beaucoup au début, hein, mais effectivement, elles sont liées indéfectiblement par un événement du passé sur lequel qu'on ne décrira pas, mais tout le reste passe après. Et elles en ont, au début du roman, elles n'en ont même pas vraiment conscience. Oui. Elles sont tellement habituées à fonctionner comme ça,
oui,
à faire passer les trois autres louves avant tout le monde, avant le plus important quand même, avant les enfants, avant...
Oui.
Qu'elles font plus attention. Et c'est en ça aussi que la mort d'Edouard est salutaire. Parce que
c'est révélatrice.
Ça leur fait un électrochoc et que d'un coup, elles se disent peut-être qu'on va trop loin.
Oui, oui, c'est le diable exterminateur qui va faire comprendre qu'il y a quelque chose de malsain dans leur amitié même. À un moment donné, elle dit, oui, on est devenu tellement dépendante que ça a atténué tout ce qui est venu après. Yep, approuva Clémence en vidant son verre, c'est à la fois une bouée de sauvetage et une arme de destruction massive, cette relation. Quand tout ça sera fini, ça ne serait pas mal qu'on, enfin, vous savez, qu'on prenne un peu nos distances.
Oui.
Voilà. Alors, on ne va pas, évidemment, déflorer la fin de ce roman policier. En tout cas, un grand merci. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de La Confrérie des Louves aux éditions du Caïman. Et c'est Florence Roth, l'auteur, qui est venue nous en parler. Merci.
Merci beaucoup, Monique.